Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre vraiment importante série Prêcher la Bible telle qu'elle est. Nous arrivons à numéro 7 et le titre de notre étude sera Le regard de l'âme. Nous vous prions de marquer Hébreux chapitre 12 verset 2. Avons les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Donc je répète, ayons les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Chers amis, revenons à notre homme intelligent mentionné dans l'étude numéro 6. L'étude numéro 6, cet homme vient à lire les Saintes Écritures pour la première fois. Il aborde la Bible sans connaître à l'avance ce qu'elle contient. Il est donc absolument sans préjugés. Il n'a rien à prouver, ni rien à défendre. Cet homme n'aura pas à lire longtemps avant que son intelligence ne commence à discerner certaines vérités mises en relief dans le texte. Il s'agit des principes spirituels qui se trouvent derrière le récit des actions de Dieu parmi les hommes et tissés dans les écrits des saints, alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. En poursuivant sa lecture, il se peut qu'il veuille dénombrer ces vérités à mesure qu'elles lui deviennent compréhensibles, et il désire faire un bref résumé sous chaque référence. Ces résumés constitueront les articles de sa foi biblique. Une lecture plus approfondie ne changera en rien ces différents points, sauf pour les élargir et les confirmer. Notre homme découvre alors ce que la Bible enseigne réellement. En tête la liste des choses que la Sainte Bible enseigne, il y aura la doctrine de la foi. L'importance considérable que la Sainte Bible accorde à la foi sera trop évidente pour qu'il passe à côté. Il conclura très probablement que la foi est de la plus haute importance dans la vie de l'âme. Sans la foi, il est tout simplement impossible de plaire à Dieu. La foi me donnera toutes choses, me conduira partout dans le royaume de Dieu, mais sans la foi, il ne peut y avoir d'approche de Dieu, il ne peut y avoir de pardon, de délivrance, de salut, de communion, ou même de vie spirituelle. Quand notre ami sera arrivé au 11e chapitre des Hébreux, l'éloge que l'auteur y fait de la foi ne lui paraîtra plus du tout étrange. Il aura lu la défense puissante que l'apôtre Paul fait de la foi dans ses épîtres aux Romains et aux Galates. Plus tard, s'il va plus loin et qu'il étudie l'histoire de l'Église, il comprendra la puissance étonnante qui est contenue dans l'enseignement des réformateurs lorsque ils montrent la place centrale qu'occupait la foi dans la religion chrétienne. Par conséquent, si la foi est d'une importance vitale, si elle est donc une nécessité absolue dans notre recherche de Dieu, il est parfaitement naturel que nous nous préoccupions profondément de savoir si nous possédons ou non ce don qui est si précieux. En outre, notre esprit étant ce qu'il est, il est inévitable que tôt ou tard, nous nous demandions ce que est la nature de la foi. Oui, qu'est-ce que, ou juste, la foi ? Suggérer aussitôt la question, est-ce que, et je me le demande, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Et cette question demanderait évidemment une réponse, s'il était possible de la trouver quelque part. Presque tous ceux qui prêchent ou qui écrivent au sujet de la foi ont pratiquement les mêmes choses à dire. Ils nous disent que c'est simplement croire à une promesse, que c'est prendre Dieu au mot, que c'est compter sur la vérité de la Sainte Bible et de la prendre pour fondement, de la prendre telle qu'elle, pour la vérité absolue. Le reste du livre ou de la prédication est généralement consacré aux histoires de gens qui ont vu leur prière exaucée en réponse à leur foi. Ces exaucements sont pour la plupart des dons directs d'un caractère pratique et temporel comme la santé, l'argent, la protection ou le succès dans les affaires. Ou bien, si le professeur a un esprit philosophique, il peut s'engager sur une fausse route et il peut nous égarer dans le labyrinthe de la métaphysique, ou encore il peut faire pleuvoir sur nous un jargon philosophique de définition et de redéfinition, coupant en quatre, pourquoi pas, en huit et en seize, le cheveu. C'est une façon de dire. Donc, jusqu'à ce qu'il finisse par ne plus avoir de substance. Quand il a enfin terminé, nous levons déçus et nous repassons par la porte par laquelle nous sommes entrés. Il y a certainement quelque chose de beaucoup mieux à faire que cela. Chers amis, dans les Saintes Écritures, il n'est pratiquement fait aucun effort pour définir la foi. En dehors d'une brève définition dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, je ne connais aucune définition biblique et même là, la foi est définie dans sa fonction et non philosophiquement. Autrement dit, c'est une affirmation de ce que la foi est dans son mécanisme et non de ce qu'elle est dans son essence. La foi suppose la présence de Dieu. Donc, on peut dire qu'elle suppose la présence de la foi et montre ses effets plutôt que ce qu'elle est. Et nous serions prudents de nous en tenir là et de ne pas essayer d'aller beaucoup plus loin. On nous dit d'où elle vient et par quels moyens elle nous vient. Alors, voyons, la foi est un don de Dieu. Je répète, la foi est un véritable don de Dieu. Et la foi, elle vient de ce que on entend, de ce que tu entends maintenant. Et ce que on entend vient de la sainte parole de Dieu. Notez Romains chapitre 10, verset 17. Ceci est très clair. Et pour paraphraser un certain Thomas à Kempis, il a dit « J'aimerais mieux exercer la foi que simplement d'en connaître la définition. » Oui, c'est vrai. À partir de maintenant, quand les mots « la foi est » ou leur équivalent apparaissent dans cette étude, eh bien, je demande qu'on les comprenne en référence avec ce qu'elle est, ce que est vraiment la foi dans son mécanisme tel que l'exerce un simple croyant. Ici même, nous laissons tomber la notion de définition et nous pensons à la foi comme on peut l'expérimenter dans l'action. La nuance de nos pensées sera donc d'ordre pratique et non pas seulement théorique. Dans un récit dramatique du livre des Nombres dans l'Ancien Testament, on voit la foi en action. Israël se découragea et murmura contre Dieu. Et l'Éternel envoya des serpents brûlants contre eux. Ces serpents mordirent le peuple et il en mourut beaucoup, beaucoup de gens en Israël. Alors Moïse chercha pour eux la face de l'Éternel. Il n'avait pas honte de s'humilier, doté de notre orgueil, se mettre à genoux et de chercher la face de l'Éternel. Et il écouta Dieu et il leur donna un remède contre la morsure des serpents. C'est-à-dire, Dieu commanda à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche à la vue de tout le peuple. Or, quiconque aura été mordu par un serpent est simplement de regarder le serpent d'airain de Moïse, il ou elle conservera la vie. Ou si Moïse obéit, et en effet, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Notez Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9. Dans le Nouveau Testament, ce moment important de l'histoire juive est rapporté par une autorité non moindre que tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus explique à ses auditeurs comment ils peuvent être sauvés. Il leur dit que c'est tout simplement en croyant. Puis, pour prendre son enseignement plus clair, il fait allusion à cet incident du livre des Nombres. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, et vous l'avez compris, à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Notre homme ordinaire, en lisant ceci, va faire une découverte très importante. Il remarquera que regarder et croire sont en quelque sorte des termes synonymes. Regarder le serpent d'airain de l'Ancien Testament équivaut donc à croire au Christ du Nouveau Testament. C'est-à-dire que regarder et croire sont une même chose. Il comprendrait que si Israël regardait avec des yeux physiques, croire doit toutefois se faire avec le cœur. Je pense qu'il conclurait que la foi est le regard de l'âme sur un Dieu sauveur. Je répète, la foi est le regard de l'âme sur un Dieu sauveur, même avec une foi débutante, on peut croire. Après avoir compris cela, il se souviendra de passages qu'il a lus auparavant et il se souviendra de leur signification qui lui apparaîtront claires comme de l'eau de roche. Oui, quand on tourne vers Jésus les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et ici, il est parlé de David le roi qui regardait à Dieu son Père, à Yahvé l'Éternel. Il a dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante, on peut dire, sont fixés sur la main de leur maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers notre Père Céleste, l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'ils aient pitié, jusqu'à ce que Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Je répète pour que ce soit pas mal compris. Donc, nos yeux se tourneront vers notre Père Céleste, vers l'Éternel notre Dieu. Et cela jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Notez le psaume 123, versets 1 et 2. Ici, l'homme cherchant la miséricorde regarde droit au Dieu de miséricorde et il ne détourne jamais les yeux de lui jusqu'à ce que la miséricorde lui soit accordée. Et notre Seigneur lui-même regardait toujours à Dieu son Père. Et levant les yeux vers le ciel, Jésus rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Saint Matthieu, chapitre 14, verset 19. En vérité, Jésus a enseigné qu'il accomplissait ses œuvres en ayant toujours le regard de l'âme tourné vers le Père. Ainsi, son pouvoir provenait de ce qu'il portait continuellement le regard vers Dieu son Père. Saint Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. Chers amis, la teneur intégrale de la Sainte Parole inspirée est en plein accord avec les quelques textes que nous avons cités. Elle nous est résumée déjà dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur nous enseigne à courir pour gagner le prix. Ayons les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. De tout ce qui précède, nous apprenons que la foi n'est pas un acte accompli une fois pour toutes, mais que c'est un regard continuel, un regard du cœur vers le Dieu trinitaire. Je répète, nous apprenons que la foi n'est pas seulement un acte accompli qui serait accompli une fois pour toutes, mais que c'est un regard continuel du cœur de notre âme et esprit vers le Dieu trinitaire. Alléluia. Croire alors, c'est diriger l'attention de notre cœur vers Jésus. C'est élever notre âme pour contempler l'agneau de Dieu et ne jamais cesser de le contempler tout le reste de notre vie. Au début, cela peut paraître difficile, mais cela devient plus aisé au fur et à mesure que nous persévérons, dans la contemplation de sa personne merveilleuse, simplement et sans aucune contrainte. Il est vrai que des moments de distraction peuvent faire obstacle, et comment, à cette contemplation. Mais une fois que le cœur s'est donné à lui, à Jésus, après chaque bref détour loin de lui, eh bien l'attention, elle reviendra et elle se fixera à nouveau sur lui, sur Jésus, tout comme un oiseau errant revient souvent à la fenêtre qui le nourrit. Je mettrai l'accent sur ce seul engagement, sur ce grand acte de volonté qui affermit le cœur dans l'intention première de contempler à jamais Jésus. Dieu considère cette intention comme venant de notre propre choix, et il se montre indulgent pour les milliers d'instants d'inattention qui nous assaillent dans ce monde de péché. Il sait que nous avons orienté nos cœurs vers Jésus, et nous pouvons le savoir aussi, et nous encourager en sachant qu'une habitude de l'âme est en train de se former, qui deviendra, après quelque temps, une sorte de réflexe spirituel qui ne demandera plus aucun effort conscient de notre part. La foi est donc la vertu qui a le moins conscience d'elle-même. Elle est par sa nature même à peine consciente de sa propre existence. Comme l'œil qui voit tout devant lui, mais qui ne se voit jamais. Ainsi la foi se préoccupe de l'objet sur lequel elle se repose et ne fait pas du tout attention à elle-même. Pendant que nous regardons à Dieu, nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Et quelle bénédiction! Oui, l'homme qui a lutté pour se purifier et n'a rien obtenu d'autre que des échecs répétés expérimentera un réel soulagement quand il cessera de se tracasser pour son âme et qu'il portera les regards sur celui, sur Jésus, qui est toute la perfection. Pendant qu'il regarde à Jésus-Christ, ce qu'il a si longtemps essayé de faire, cela se fera en lui, c'est-à-dire ce sera Dieu qui produira en lui le vouloir et le faire. La foi n'est donc pas en soi un acte méritoire, surtout pas. Le mérite revient uniquement à celui vers qui elle est dirigée. La foi est une direction nouvelle du regard, c'est notre point de mire, n'étant plus nous-mêmes, mais Dieu en personne. Donc, le péché a déformé en nous, notre vision, et elle l'a rendue en quelque sorte égocentrique. L'incrédulité a mis le moi, mon égoïsme, le moi, à la place que Dieu devait occuper. Et elle s'apparente dangereusement au péché de Lucifer, qui disait j'élèverai mon trône. Au-dessus de celui de Dieu, personne n'a jamais fait ça. Ni l'archange Michel, ni l'archange Gabriel ont eu un orgueil pareil. La foi regarde donc au dehors et non en dedans. Et c'est ainsi que la vie entière s'ordonne. Tout cela peut sembler être un peu trop simple, mais nous n'avons pas à nous en excuser. À ceux qui chercheraient à monter jusqu'au ciel pour y trouver de l'aide, ou à descendre aux enfers, eh bien Dieu dit, la parole, elle est près de toi. La parole, elle se trouve tout près de toi. Surtout la parole de la foi. La sainte parole nous incite donc à lever les yeux vers l'Éternel, notre Père céleste, et c'est alors que commence le travail béni de la foi. Quand nous levons les yeux de notre cœur pour contempler Dieu, nous sommes sûrs de rencontrer des yeux amis répondant à notre regard. Car il est écrit que le regard de l'Éternel parcourt toute la terre. Le doux langage de l'expérience est celui-ci. Toi, mon Dieu, tu me vois. Et quand les yeux de l'âme regardent au dehors et qu'ils croisent le regard de Dieu, eh bien le paradis commence dès cet instant sur la terre. Quand de toutes mes forces, je me tourne vers toi, vers Dieu mon Père, parce que de toutes les forces, tu te tournes vers moi. Tu te tournes vers moi, surtout quand je regarde à toi seul, avec toute mon attention, et que jamais je ne détourne de toi le regard de mon cœur, de mon âme et de mon esprit, parce que Dieu, mon Père, oui, toi, tu m'enveloppes tout simplement de ton regard inaltérable. Dieu, mon Père, m'enveloppe de son regard inaltérable quand je dirige vers lui seul, mon amour. Parce que lui, Dieu, qui est l'amour par excellence, il s'est tourné vers moi seul. Qu'est-ce que, au fond, ma vie ? Seigneur, qu'est-ce que est ma vie sans ta merveilleuse tendresse ? On peut poser cette question sérieusement. Si donc la foi est la contemplation de Dieu par le cœur, et si cette contemplation consiste à lever les yeux intérieurs pour croiser le regard de Dieu qui voit toutes choses, alors il s'ensuit que c'est une des choses les plus faciles qui soient. Cela ressemblerait bien à Dieu de rendre facile, facile la chose la plus vitale qui est de la placer à la portée du plus faible et du plus pauvre d'entre nous. Je répète, cela ressemblerait bien à Dieu de rendre facile ou plus facile la chose la plus vitale et ainsi de la placer à la portée du plus faible entre nous et du plus pauvre d'entre nous. On peut, avec raison, en tirer un certain nombre de conclusions. La simplicité de la foi, par exemple, étant donné que croire, c'est regarder, cela peut se faire sans équipement spécial et sans attirail religieux. Dieu a voulu que l'essentiel de la vie et de la mort ne soit jamais soumis aux caprices du hasard. Un appareil peut se briser ou se perdre. L'eau peut provoquer une inondation comme au Texas actuellement. Le feu peut détruire des dossiers. Le pasteur peut être retardé ou l'église peut même brûler. Tout cela est extérieur à l'âme et reste soumis à un incident ou à une défectuosité mécanique, mais regarder vers Dieu et Jésus-Christ, cela vient du cœur. Or, n'importe quel homme peut regarder facilement, qu'il soit debout, qu'il soit agenouillé ou couché, ou rendu à sa dernière extrémité à des milliers de kilomètres de toute église. Étant donné que croire, c'est regarder, on peut le faire n'importe quand. En effet, à aucun moment ou aucun moment n'est plus propice qu'un autre pour s'adonner au plus doux de tous les actes. Dieu n'a jamais fait dépendre le salut des nouvelles lunes ou des fêtes religieuses, même pas des sabbats. Je répète, Dieu n'a jamais fait dépendre le salut de notre âme des nouvelles lunes, des fêtes religieuses ou même des sabbats. Un homme n'est pas plus près de Christ un dimanche de Pâques qu'il ne l'est, disons, le samedi le 3 août ou le lundi le 4 octobre. Aussi longtemps que Jésus-Christ siégera sur le trône comme médiateur, chaque jour est un jour favorable. Tous les jours sont donc des jours de salut. L'endroit non plus n'a pas d'importance pour cette tâche bénie qui consiste simplement à croire en Dieu. Chers amis, tendez donc votre cœur simplement vers Jésus et reposez-vous sur lui. Et à l'instant même, vous vous trouverez dans un sanctuaire, que vous soyez dans une couchette de Pullman, que vous soyez dans une usine, ou dans une cuisine tout simplement. Vous pouvez voir Dieu de n'importe quel endroit si votre pensée est disposée à l'aimer et à lui obéir. Maintenant, quelqu'un pourrait nous demander, voyons, ce dont vous parlez maintenant, n'est-ce pas réservé uniquement à des personnes toutes désignées, telles que des moines, des nonnes ou des pasteurs et des prêtres, qui ont par la nature de leur vocation beaucoup plus de temps pour se consacrer à une méditation paisible. Eh bien, je suis très pris, allez-vous dire, par mon travail, et je dispose beaucoup moins de temps que certains pour être seul. Alors, je suis heureux de pouvoir dire que la vie que je décris est absolument pour tout enfant de Dieu, sans distinction de vocation. En fait, c'est une vie que beaucoup de personnes qui travaillent très dur expérimentent joyeusement chaque jour. Et cette vie est à la portée de tous. Mes pensées, par la prière, elles peuvent être en contact avec le Seigneur à n'importe quel moment de la journée, même pendant la nuit. Beaucoup de croyants ont trouvé le secret dont je parle et sans trop attacher leur pensée à ce qui se passe en eux, ils mettent constamment en pratique cette habitude de contempler Dieu intérieurement. Ils savent que quelque chose en eux voit Dieu. Même quand ils sont obligés de détourner leur attention consciente pour s'occuper des affaires de la terre, une communion secrète se poursuit toujours entre eux et Dieu. Que leur attention se relâche un seul instant d'un travail nécessaire, eh bien c'est pour s'envoler de nouveau immédiatement en pensée vers Dieu le Père. C'est le témoignage d'un grand nombre de chrétiens, un si grand nombre que, en affirmant cela, j'ai l'impression de faire des citations quant à savoir qui et combien de personnes je cite. Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas donner l'impression que les pratiques habituelles accompagnent la grâce, qu'elles n'ont pas de valeur. Je n'ai pas dit cela. Elles en ont, évidemment. Tout chrétien devrait consacrer du temps à la prière personnelle. De longs moments de méditation de la Sainte Bible purifieront notre contemplation et la dirigeront. Ainsi que aller au culte le dimanche matin, cela élargira notre horizon et augmentera notre amour pour les autres. Donc, le culte, le travail, l'activité, tout cela est bon et chaque chrétien devrait s'y engager. Toutefois, à la base de ces bonnes pratiques, il y aura l'habitude intérieure de contempler Dieu donnant à ces pratiques leur véritable signification. Un nouveau système oculaire, si l'on peut parler ainsi, se développera en nous et nous permettra de regarder. Cela nous permettra de regarder à Dieu pendant que nos yeux extérieurs verront les scènes de ce monde très éphémère. Quelqu'un peut craindre que nous accordions à la religion personnelle une place hors de proportion et que le « nous » du Nouveau Testament ne soit remplacé par un « je » égoïste. Alors, ne vous est-il jamais venu à l'idée que, par exemple, une centaine de pianos qui sont tous accordés au même diapason sont automatiquement accordés entre eux. Ils sont donc en harmonie parce qu'ils sont accordés, non l'un à l'autre, mais tous à un diapason auquel chacun d'eux s'est individuellement soumis. Ainsi, une centaine d'adorateurs réunis, regardant chacun à Christ Jésus, sont beaucoup plus proches les uns des autres en esprit qu'ils ne pourraient l'être s'ils se préoccupaient uniquement de l'unité, c'est-à-dire que d'eux-mêmes uniquement. Une religion de groupe se perfectionne quand la religion de chacun est purifiée. Le corps devient donc plus fort quand la santé de ses membres s'améliore. Toute l'Église de Dieu y gagne quand les membres qui la composent commencent à rechercher vraiment sérieusement une vie meilleure et plus élevée. Tout ce que je viens donc, qui vient d'être dit maintenant, présuppose donc une véritable repentance, premièrement, ensuite un engagement total de notre vie à Dieu. Il est à peine nécessaire de le mentionner, car seules les personnes qui ont pris un tel engagement sérieux vont pouvoir en bénéficier. Quand l'habitude de regarder intérieurement vers Dieu est fixée en nous, nous sommes élevés à un autre niveau de vie spirituelle, plus en harmonie avec les promesses de Dieu et avec l'esprit du Nouveau Testament. La Trinité divine, elle sera notre habitation, même quand nos pieds fouleront la route banale du simple devoir ici-bas parmi les hommes. En vérité, nous aurons trouvé le summum, le bonum de la vie. C'est donc là que se trouve la source de tous les délices qu'il est possible de souhaiter. Non seulement aucun homme ni aucun ange ne peut en imaginer de meilleur, mais il n'en existe pas de meilleur dans aucun état de l'existence, car c'est le maximum absolu de tout désir rationnel, et il ne peut en exister de plus grand. Chers amis, prions maintenant ensemble. Ô Seigneur, j'ai entendu une bonne parole m'invitant à regarder à toi pour être comblé. Mon cœur désire cette communion, mais le péché a assombri à tel point ma vue que je ne te vois que faiblement. Veuille donc me purifier par ton sang précieux et me rendre pur intérieurement, afin que je puisse avec des yeux ouverts te contempler tous les jours de mon pèlerinage terrestre. Alors, je serai prêt à te contempler dans ta splendeur parfaite au jour où tu apparaîtras pour être glorifié par tes saints et exalté par tous ceux qui croient en toi. Amen. Et chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Arrêtez-vous un peu sur le seuil du grenier de Jésus-Christ qui regorge de bien pour vous. Arrêtez-vous et frémissez de joie dans l'adoration. Il vous comblera. Abandonnez à Jésus vos désirs après les avoir purifiés dans le Saint-Esprit et puis recevez-en l'accomplissement. Prenez bien conscience de tout cela et que votre cœur chante de joie à la pensée d'une telle abondance. La paix, oui, il s'agit pour vous de maintenir cette paix dans vos cœurs et votre vie. Vous le devez à Jésus-Christ. C'est tellement important, parce que si vous perdez cette paix, vous devenez momentanément inutilisable. Apprenez donc à déceler la moindre agitation qui vient troubler votre vie, les moindres remous de votre cœur. Apportez-les lui aussitôt pour qu'il rétablisse le calme. N'oubliez pas que parce que vous ne permettez pas à Jésus d'agir par vous, tel message ne sera peut-être pas transmis, ou qu'un mot d'amour ne sera jamais dit parce que votre moi se sera interposé pour qu'il ne le soit pas. Le grand coupable, c'est votre moi qui brouille tout en s'agitant, et le don par excellence que Jésus a donné à ses disciples, ce fut celui de la paix. Maintenant, chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Et il est évidemment de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous. Je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous dis, soyez bénis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et maintenant, j'essaye de vous mettre un ou deux chants que j'ai enregistrés en Angleterre en 1952, il y a longtemps, très longtemps de cela. Écoutez bien.
What the king has been building so well. Put down your tools, rest a while from your labors. Lift up your eyes, lift your hands, come and see. Come dance with me round the walls of the city. Let us give glory to Jesus our King. You are the stones which His love is now shaping. Lives being made into praise to our God. See the pure stone which the builders rejected. Now the foundation, the glory of God. Come dance with me with the stones of that city. Giving the glory to Jesus our King. His love is now shaping, lives being made into praise to our God. See the pure stone which the builders rejected, now the foundation, the glory of God. Come dance with me with the stones of that city, giving the glory to Jesus our King.
Times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid. Is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure. and grips the solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In tender compassion and wonderful love, the Father looks down from on high. In earth the raven hath need of its food, and heareth in mercy its cry. The raven he feedeth, then why should I fear? To the heart of the Father his children are dear. So if the day darkens and storms gather out, I only look upward and trust him the more. No need have I ever to trouble my breast or fear what tomorrow may bring. The heart of the Father is planning my rest, and I am the child of the King. The raven he feedeth, then why should I fear? To the heart of the Father his children are dear. So if the day darkens and storms gather low, I'll only look upward and trust him no more.
Only a trap was Lazarus that day. He who lay down at the rich man's gate, he begged for the crumbs from the rich man to eat. He was only a tramp found dead on the street. He was some mother's dog. But they left him to die.
Left him to die.
and snake. Once he was fair, and once he was young. Mary, she rocked him, her darling, to sleep. But they left him to die. Like a tramp on the street.
If Jesus should come and knock on your door for a place to come in or some bread from your store, would you welcome him in? Turn him away, then God will deny you on that great judgment.